Le groupe UCF-LNKS au Congrès écrit à Emmanuel Macron. Il affirme que l'interlocuteur légitime pour la rencontre du 16 janvier à Paris est le FLNKS et son président Christian Théin. Je rappelle par ailleurs qu'une délégation du Front indépendantiste est déjà à Paris. La France qui dément vouloir renoncer à sa souveraineté sur les îles Matthew et Hunter. Et la France qui évoque des discussions autour de délimitation de la zone économique exclusive des deux pays. L'actualité en Nouvelle-Calédonie, 81,2% de réussite au baccalauréat, des chiffres en légère hausse par rapport à 2023. Des résultats jugés d'ailleurs convenables et solides par le vice-recteur. L'actualité européenne, le bras de fer continue entre les agriculteurs et l'Union européenne. 7000 manifestants et 1 millier de tracteurs dans les rues de Bruxelles cette nuit pour dire non au traité de libre-échange avec le Mercosur. Le football et Strasbourg qui reçoit les Islandais de Breda Blick, 6e journée de la Ligue Conférence. Les Alsaciens qui sont toujours invaincus dans la compétition européenne. La météo en Nouvelle-Calédonie, le temps reste majoritairement ensoleillé. Toutefois, quelques averses se développent sur le relief et se décalent sur la pointe nord. D'autres circulent aux loyautés. L'alizé de sud-est se renforce. Quant aux températures maximales, elles sont stables et proches des valeurs de saison. Elles s'échelonnent de 28 à 30 degrés, localement 31 à 32 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique.
Oui, l'UCF-LNKS répond donc à Emmanuel Macron qui a invité, je le rappelle, les élus calédoniens à Paris le 16 janvier. C'est le chef de groupe UCF-LNKS et nationaliste, Pierre-Chanel Tutu-Goro, qui signe ce courrier au président de la République. Il demande des clarifications au chef de l'État et il lui précise que l'interlocuteur légitime est le FLNKS, Elisabeth Noir.
Le président du groupe UCF-LNKS et nationaliste s'étonne d'avoir reçu une invitation du président de la République et que Christian Théin, le président du FLNKS, n'en ait pas été destinataire. Alors même, écrit-il à Emmanuel Macron, qu'il a formellement sollicité une entrevue directe avec vous. Dans ce courrier, Pierre-Chanel Tutu-Goro tient aussi à indiquer que le groupe UCF-LNKS et nationaliste n'a ni vocation ni mandat à se substituer au FLNKS pour conduire le dialogue politique avec l'État. Et il ajoute que la poursuite d'une méthode qui consisterait à privilégier des échanges avec un groupe parlementaire plutôt qu'avec le FLNKS, par l'intermédiaire de son président, ne saurait permettre de créer les conditions d'un dialogue utile, sincère et durable. Pierre-Chanel Tutu-Goro insiste donc pour que l'État engage prioritairement un échange direct avec le président du FLNKS, qui est actuellement à Paris, pour clarifier le cadre, les objectifs et la méthode d'une éventuelle reprise des discussions. Il rappelle également que le FLNKS a rejeté formellement et catégoriquement l'accord de Bougival, ce qui signifie, écrit-il, retrait de mandat pour toute discussion relative à la mise en œuvre de ce projet et refus de toute consultation s'y rapportant. Le groupe UCF-LNKS estime donc que la séquence prévue en janvier nécessite des clarifications indispensables et il demande au président de la République de préciser la nature exacte des échanges que l'État entend engager.
Et je rappelle que depuis lundi, la délégation du FLNKS emmenée par son président Christian Théin rencontre à Paris les principaux groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. La délégation a également été reçue par le président du Sénat Gérard Larcher mardi au Sénat et par la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet, c'était mercredi. Pour le groupe LR à l'Assemblée nationale, c'est Philippe Gosselin qui, en l'absence de Laurent Wauquiez, a reçu la délégation indépendantiste. Pour le député LR de la Manche, la solution peut venir du président de la République qui invite à Paris le 16 janvier tous les partenaires politiques calédoniens. Et pour lui, la nomination par ailleurs lundi dernier du préfet Olivier Jacob comme conseiller outre-mer d'Emmanuel Macron est un autre signal que c'est désormais l'Élysée qui est à la manœuvre.
Celui qui a la main aujourd'hui, et on voit bien d'ailleurs cette difficulté, le président a dessaisi et le Premier ministre sans doute, et encore plus la MOM, et changement aussi de conseiller, puisqu'on reprend le préfet Jacob, et c'est très bien d'ailleurs, lui il connaît bien les choses, donc changement de tête, voilà, mais quoi derrière, c'est compliqué, Bougival c'est non pour le FLNKS, maintenant en disant non à Bougival, on a pris soin aussi dans le texte du projet de loi de report des élections d'enlever la référence à Bougival pour donner un peu de temps au temps et discuter. Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent encore se discuter. Par contre, il faut peut-être cesser de dire c'est Bougival.
La déclaration du député Philippe Gosselin, membre de la mission d'information sur la Nouvelle-Calédonie, interrogé par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. La Nouvelle-Calédonie n'est pas sortie d'affaire économiquement parlant. Dans ce contexte, le gouvernement prend des décisions certes difficiles, mais nécessaires pour réduire les dépenses et assainir la situation. C'est le message qu'a voulu faire passer le président du gouvernement, Alcide Ponga, hier, Lionel Sabot.
Oui, Alcide Ponga préside le 18e gouvernement depuis le 8 janvier dernier, et c'est une sorte de bilan de sa première année à la tête de l'institution qu'il a voulu dresser, non pas pour détailler l'ensemble des chantiers en cours, mais pour s'adresser aux Calédoniens avec un langage de vérité.
La situation, elle est complexe, critique, Mais je pense que les Calédoniens, ils sont conscients. Mais surtout, je veux faire passer le message qu'il ne faut pas lâcher dans les efforts que l'on fait. Il faut continuer le travail, il ne faut pas lâcher dans les réorganisations de nos collectivités que l'on a lancées en début d'année. Oui, c'est complexe, c'est difficile. Il y a des matins où je me lève, je me demande si ça sert à quelque chose de se lever. Mais le temps d'un clignement d'œil, je me dis, il faut tenir. C'est ça le message que je veux faire passer. La situation, elle est dure, elle est compliquée, elle est critique, mais il faut tenir parce que les Calédoniens sont des gens qui sont capables de se relever rapidement. On l'a fait à plusieurs reprises auparavant et on le refera encore.
Et le gouvernement est engagé pour répondre aux problèmes concrets des Calédoniens, quitte à prendre des décisions difficiles. C'est le cas, par exemple, pour le déménagement du trafic d'Erkal de Magenta vers Tontouta à partir de début mars. La décision de fermer la maison de la Nouvelle-Calédonie a aussi été difficile à prendre, mais elle va permettre de réaliser des économies substantielles. Et parmi les chantiers qui doivent aboutir l'an prochain, Alcide Ponga met en avant le plan d'évolution de l'administration, une réorganisation des structures destinées à améliorer la vie des usagers. Alcide Ponga s'engage aussi pour renforcer la place de la Calédonie dans la région, vecteur selon lui d'opportunités économiques et de partenariats profitables à la Calédonie.
Des sujets sur lesquels nous reviendrons ce matin avec le président du gouvernement. Alcide Ponga sera en effet notre invité du matin à 7h30. Dans l'actualité institutionnelle toujours, la loi du pays pour une meilleure connectivité de la Nouvelle-Calédonie devra attendre. Le texte devait être examiné hier matin par les élus du Congrès, mais l'ordre du jour a finalement été modifié en ouverture de séance à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les élus ont en revanche longuement débattu du projet de loi du pays réaffectant provisoirement la taxe sur l'électricité pour contribuer au financement du système électrique. Le texte a été adopté à l'unanimité. Les élus ont également adopté 3 projets de délibération, dont un concernant l'application de la taxe croisière. Un texte adopté par 30 voix pour et 16 voix contre, celles de 5 élus de Calédonie Ensemble et des 3 élus Éveil Océanien et de 8 élus du groupe UNI. A noter que cette séance était la première pour le nouvel intergroupe Éveil Océanien Calédonie Ensemble qui compte 8 élus. Ils ont gardé leur place dans l'hémicycle et ils ne siègent donc plus côte à côte. En outre, les voix des 3 élus Éveil Océanien et des 5 élus Calédonie Ensemble ont été comptabilisées séparément, ce qui a un peu surpris dans les travées du Congrès. Dans le reste de l'actualité ce matin, c'est confirmé. L'hôtel Oued Rabet ouvrira bien lundi, le 22 décembre. Inauguré en décembre 2023, l'hôtel a rencontré de nombreux aléas et il a connu de nombreux retards. Il n'a jamais accueilli de clients. Hier matin, le tribunal de commerce examinait la situation de Gigadex, la filiale qui gère l'hôtel de Lifou et qui est en cessation de paiement depuis 2024. Elle a été placée en redressement judiciaire en juin 2025 et elle aurait pu être placée en liquidation judiciaire. Mais finalement, le Oued Rabet va bénéficier d'un sursis. Pour faire face aux difficultés budgétaires, la province des îles, par le biais de la Sodil, qui détient 95% de Gigadex, a emprunté 600 millions de francs. De quoi permettre le lancement de l'activité, même si elle se fera sans le partenariat avec le groupe Intercontinental. Le président de la Sodil, Jacques Dralu, a confirmé l'ouverture à la sortie de l'audience.
Le tribunal de commerce donc, a statué aujourd'hui donc, la poursuite de l'exploitation. Et donc, pour nous, ça veut dire l'ouverture le 22 décembre, donc lundi prochain. Et donc, on part sur une nouvelle période d'observation de 6 mois. C'est ce que nos avocats avaient demandé au tribunal qui a été accepté. Donc, on est très satisfait de la décision. Pour nous, ça nous permet donc de protéger l'exploitation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir tranquillement. Les dettes, elles sont maîtrisées. Je veux dire, les créanciers donc, ne vont pas venir s'impliquer dans l'exploitation. Donc on va pouvoir donner toute notre énergie à l'ouverture de cet hôtel.
L'hôtel Oued Rabet va donc ouvrir dès lundi, mais ce sera une ouverture en mode dégradé. Sur les 50 chambres, 30 seulement seront commercialisées. Et le président de la Sodil s'inquiète aussi de la fiabilité de la desserte aérienne. Les réservations sont d'ores et déjà possibles sur le site et sur la page Facebook de l'établissement. Et les tarifs affichés sont compris entre 22 500 et 32 500 francs la nuitée pour une ouverture donc ce lundi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. L'hôtel Oued Rabet de Lifou qui ouvre lundi, va-t-il selon vous trouver sa clientèle et sa rentabilité? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à la fin du monopole de l'OPT pour les connexions Internet satellitaires. Ils sont 32% à dire à l'inverse qu'ils y sont opposés. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour une nouvelle question du jour. Un rendez-vous sur notre antenne, c'est Virginie Rufnak, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui sera ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle sera interrogée sur l'actualité politique calédonienne entre l'abandon de la consultation anticipée, l'invitation lancée par le président de la République ou encore le plan de relance proposé par le Premier ministre. Virginie Rufnak aura aussi l'occasion de s'exprimer sur sa candidature aux élections municipales à Nouméa. Une interview à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. En attendant, il est 6h passées de 41 minutes. Merci d'être avec nous. Après la pause publicitaire, toujours l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment le ministère des Affaires étrangères qui dément vouloir renoncer à sa souveraineté sur les îles Matthew et Hunter. On en parle juste après ça.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le 24 décembre, Païta vous donne rendez-vous à l'Arène du Sud de 14h à 20h. Balade en petit train de 14h à 17h, puis animation festive jusqu'à l'arrivée du Père Noël à 19h. Un moment magique à partager en famille avant le grand soir. Le 24 décembre, Païta fête Noël. Venez nombreux célébrer la magie des fêtes.
Ho ho ho! Global Parts à Ducos fête son premier anniversaire. Le spécialiste de la pièce automobile de qualité à petit prix fête ses 1 an et vous fait des offres encore plus folles. Pendant tout le mois, 30% de remise sur l'ensemble du magasin. Pièces, pneus et accessoires. En plus, rendez-vous dans notre magasin de Ducos et tentez de gagner un barbecue à gaz ou l'un des autres cadeaux en jeu. Jeu gratuit, sans obligation d'achat. Règlement complet sur place. Global Parts, le spécialiste de la pièce auto pour les pros et les particuliers. 30 rue Hervoué à Ducos. Plus d'infos sur notre Facebook Global Parts NC. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
La Mutuelle du Nickel est heureuse de vous accueillir dans son nouveau centre au PK7 rue Jacques-Yécaoué. Venez découvrir votre nouvel espace santé avec les opticiens, l'audition et l'ophtalmologie mutualiste, ouvert à tous les mutualistes. La Mutuelle du Nickel, votre santé, notre priorité.
Tu rêves d'aventure cet été? Avec les canettes Nescafé glacées, tente ta chance!
À gagner, une plate 40 chevaux, un paddle, un kayak ou encore un kit de pêche ou de plongée.
Jouez jusqu'au 31 décembre en achetant 2 canettes Nescafé, notez vos coordonnées au dos du ticket, puis déposez-le en magasin ou rendez-vous sur jeunestlé.nc. Et pour participer gratuitement, direction Nestlé.
Jeux sans obligation d'achat, règlement complet chez Maître Citrita, huissier à Nouméa.
Le marché de Ducos accueille un marché spécial Noël mercredi 24 décembre de 5h à midi, toujours sous la halle de Ducos. Retrouvez un marché de produits de saison, décorations et stands de Noël. La Chambre d'agriculture et de la pêche vous donne rendez-vous mercredi pour faire le plein de produits frais pour le réveillon.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal est la France qui dément donc vouloir renoncer à sa souveraineté sur les îlots Matthew et Hunter. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, réagit au propos du Rassemblement national notamment. Marine Le Pen, qui avait écrit sur le réseau social X, je cite, « Que ce soit bien clair, la souveraineté nationale ne se négocie pas ni ne s'abandonne. Les Français n'attendent pas du pouvoir macroniste qu'il dépèce de nos territoires d'outre-mer, véritable levier de puissance, d'influence et de développement économique, mais qu'il se donne les moyens de les protéger et de les défendre, Lionel Sabot. »
Le ministre des Affaires étrangères évoque de fausses informations selon lesquelles la France serait sur le point de remettre en cause sa souveraineté sur les îles Matthew et Hunter. Jean-Noël Barrot rappelle que la France et le Vanuatu ont ainsi entamé ces derniers mois des discussions pour trouver un consensus, en particulier sur les délimitations de la zone économique exclusive de chaque pays. Un premier entretien entre le président de la République et le premier ministre du Vanuatu s'est tenu à Paris au mois de juillet. Des échanges préliminaires se sont tenus à Port-Vila fin novembre. Le Quai d'Orsay déclare que cette question est l'objet d'un contentieux ancien datant de l'indépendance du Vanuatu en 1980. Ce qui bloque la délimitation de la frontière maritime avec la Nouvelle-Calédonie et crée des incertitudes juridiques problématiques affectant les activités de pêche ou encore de recherche. Le ministre affirme que, et je cite, « aucune cession de territoire ou renonciation à notre souveraineté n'a été évoquée lors de cet échange. Les discussions se poursuivront à Paris début 2026. »
Radio Rythme Bleu, 6h45.
La ville de Dimbéa a voté hier son budget 2026. Les marges de manœuvre restent restreintes pour la ville qui poursuit sa politique de maîtrise des dépenses, mais dégage tout de même 1,3 milliard pour les investissements, Lionel.
5,713 milliards de francs, c'est le montant de ce budget primitif. Il est en hausse de 8% par rapport à 2025, mais cela est dû à l'obligation de couvrir le capital d'emprunt. Le remboursement était en effet en partie suspendu l'année dernière, compte tenu du contexte, mais cette année, il ne l'est plus. 375 millions ont donc été inscrits inscrit au budget pour rembourser la dette. Mais en soi, le budget est relativement similaire à 2025. Les recettes de fonctionnement sont en baisse. En cause, l'activité économique paralysée qui a entraîné une chute de 100 millions des centimes additionnels perçus par la commune. Les efforts doivent donc se maintenir, notamment sur les charges de personnel qui représentent à elles seules un peu plus d'1,7 milliard de francs. 12 postes ont été gelés, 5 supprimés. Les efforts permettent de consolider le budget prévu pour l'investissement. 1,270 milliard y sont consacrés, notamment grâce au soutien de l'État sur la reconstruction. Johan Le Curieux, le maire de Dimbéa.
En 2026, on a beaucoup de projets en cours. On a l'assainissement du lotissement Sécal. On a la reconstruction des équipements sportifs sur les terrains sportifs de football et de rugby. Nous avons l'arrivée d'un nouvel espace culturel, la réception de l'unité de traitement chimique de l'eau à Coué. Les écoles sont déjà en travaux et on va les réceptionner à la rentrée scolaire. Ce sera des paiements qui s'effectueront en partie l'année prochaine. Donc il y a énormément de projets dans le cadre de la reconstruction qui vont être réalisés au cours de l'année 2026.
La sécurité est également l'un des axes que souhaite développer l'équipe municipale pour l'année à venir. Plusieurs investissements ont été prévus en ce sens.
Sur la sécurité, on a actuellement fait un effort considérable en recrutant 4 agents de police municipale cette année en plus. L'année prochaine, il est prévu aussi de recruter 4 agents supplémentaires. Donc on voit que la commune maintient un niveau de recrutement au niveau de sa police municipale. Et nous continuons aussi d'équiper en vidéoprotection la commune en moyenne de plus de 30 caméras chaque année supplémentaires.
Le budget a donc été adopté à la majorité. Le groupe Les Loyalistes, le Rassemblement d'Imbéa, a voté contre. Cynthia Jean est leur chef de file.
Nous contestons certains choix qui sont faits, notamment un manque de transparence sur les projets financés par l'État. La piscine de Coutio qui a été partiellement détruite, il va y avoir un projet de reconstruction assez conséquent. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. On a un autre souci également avec le choix de ne pas reconstruire de centre culturel. On sait que c'est un élément essentiel pour la cohésion sociale et l'exécutif a choisi de vendre le terrain à un propriétaire privé. Et puis on a dénoncé également l'absence totale de subventions depuis maintenant plus de 2 ans aux radios qui notamment couvrent les conseils municipaux, les radios privées et qui n'ont pas d'aide venant de la commune et on le regrette fortement.
Cynthia Jean qui a déjà présenté sa liste pour les municipales du mois de mars 2026. Quant au maire, il n'a pas répondu à la question d'une possible candidature à sa propre succession.
Et à l'occasion de ce dernier conseil municipal de l'année, 2 policiers municipaux de la commune ont été récompensés. Il s'agit de Christopher Cazone et de Jordi Talatini, tous deux intervenus alors qu'une jeune fille tentait de mettre fin à ses jours en sautant du pont des Érudits. C'était le 28 novembre dernier, l'adolescente s'était jetée dans le vide et le policier Cazone s'était précipité pour amortir sa chute. Bilan, une cheville et un péroné fracturé, mais une vie sauvée. Il a reçu hier soir du haut-commissaire Jacques Billan la médaille d'argent du courage et du dévouement.
Ces faits exceptionnels méritent bien entendu d'être récompensés. Nous font honneur à la ville de Dimbéa et honneur à la Nouvelle-Calédonie.
Donc, le collègue Jordi, on était en surveillance générale dans le cœur de ville et on a été sollicité pour se rendre sur la tentative de suicide. Ça s'est passé très rapidement, quoi. On est arrivé sur place et elle a fait mine une première fois de se jeter dans le vide et la seconde fois, elle s'est jetée dans le vide et on a réagi. On a eu 2-3 interventions de ce type qui s'est terminée par des décès. Donc ouais, justement, dans ce genre de situation, on ne réfléchit pas et puis quelque part, on est prêt pour ce genre de situation. J'espère qu'on prend soin d'elle et que justement, il y a des oreilles qui peuvent l'écouter et puis essayer de ranger la situation dans laquelle elle se trouve.
Quant au policier Jordi Talatini, il a reçu une lettre de félicitations signée du haut-commissaire Jacques Billan. Les résultats définitifs du bac 2025 sont tombés hier après-midi. Toutes filières confondues, le taux de réussite est cette année de 81,2%, en hausse de 0,5 points par rapport à 2023, dernière année de référence. Un résultat qui cache quelques disparités selon les filières, mais que le vice-recteur Didier Verdatich a qualifié de convenable et solide. Il s'en est expliqué sur notre plateau hier soir, puisqu'il était notre invité dans le journal de 17h45.
Je crois qu'en disant convenable, j'étais en dessous de la vérité parce que tout bac confondu, on progresse. Sur le bac technologique, on fait une belle percée. Sur le bac général, on diminue un peu, mais rien d'alarmant. Bon, il n'y a que sur le bac professionnel et le CAP aussi, où on doit continuer à progresser parce qu'il y a une petite marge de progrès, quand bien même, il y a une propension des familles et des élèves à choisir ces orientations-là.
Et dans les filières générales, le taux de réussite s'élève à 92,7%, soit un recul de 1,1% par rapport à 2023. Rien d'alarmant, nous a dit Didier Vindatich.
Ça ne m'inquiète pas du tout, c'est une diminution très faible. Pour tout vous dire, on pensait que les résultats auraient été plus faibles compte tenu du fait qu'on prépare le bac en classe de première, en fait. Puisque les spécialités, on les fait en classe de première, et compte tenu de ce qui s'est passé l'année passée, on pensait qu'il pouvait y avoir des contre-performances. Bah, moins 1%, ce n'est pas une contre-performance.
Le vice-recteur salue aussi les 100% de réussite au bac français international mis en place cette année, une filière d'excellence choisie par 36 élèves. Il s'inquiète en revanche des élèves qui ont échoué au bac professionnel, notamment ceux qui ont raté des épreuves dans l'année ou pour le CAP, alors que 15% des candidats ne se sont pas présentés aux épreuves. Il faut lutter contre le décrochage scolaire, explique Didier Vindatich.
C'est vraiment un sujet d'inquiétude, notamment pour les élèves de CAP qui n'ont pas leur bac. On a le droit, hein, naturellement, échouer une première fois, il faut persévérer, puis on l'aura la deuxième fois. Mais quand on connaît la définition du décrochage qui est que est décrocheur un élève qui quitte le système de formation initiale entre 16 ans et 18 ans sans formation, pas même le CAP, on comprend bien qu'un élève qui aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie n'a pas le CAP est potentiellement décrocheur. Bon, je les invite, ces élèves, à se réinscrire le plus vite possible dans nos établissements pour bénéficier d'un accompagnement qui leur permettra d'obtenir les unités qu'ils n'ont pas eues cette année, puisque c'est capitalisable, ils en ont une partie, mais pas l'autre, ben l'autre, ils l'auront l'année prochaine. Donc il faut revenir dans nos établissements.
Et le vice-rectorat va s'atteler à aller chercher ses élèves dès la rentrée prochaine. Par ailleurs, les résultats du brevet des collèges seront publiés cet après-midi à 14h. En bref, attention à l'épidémie de grippe qui circule sur le territoire. En ce début de vacances scolaires, le nombre de consultations et de passages aux urgences pour infections respiratoires se multiplie. Le gouvernement alerte et rappelle les bons gestes à adopter pour protéger les plus fragiles. Si vous ressentez de la fièvre, de la fatigue, des courbatures, des maux de tête ou que vous toussez, pensez à porter un masque et limiter les contacts avec les autres. Que vous soyez malade ou non, il est recommandé d'aérer les pièces de la maison et de se laver régulièrement les mains. Et puis si vous avez un problème de santé, consultez en priorité votre médecin pour ne pas surcharger les urgences à l'hôpital. En bref, toujours un avis aux voyageurs, de nouvelles perturbations sur les vols Air Calin. Plusieurs rotations sont en effet décalées, notamment les vols à destination de Brisbane, qui se feront à 16h ce vendredi et à 14h demain samedi. Le vol à destination de Wallis, prévu lundi, le 22 décembre, quittera Nouméa à 8h. Enfin, notez que le vol prévu pour Port Vila demain, samedi, est reporté à dimanche, départ à 16h25. Et enfin, une information pratique à présent, notez qu'à l'approche des fêtes de Noël et des animations prévues à Nouméa, le stationnement sera gratuit en centre-ville et au quartier latin à partir de lundi jusqu'à mercredi le 24 décembre. Il est 6h53, vous écoutez Radio Rythme Bleu, une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'info matin continue avec votre caviste Les Petits Chiots.
Nouveau, cave à vin. Votre caviste Les Petits Chiots a ouvert ses portes au village. Idées cadeaux pour Noël, sélection pointue et conseils sur mesure. Info Facebook, lespetitschiots.nc. Du caractère, coup de cœur garanti.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2025. Dans un premier temps, vérifiez votre inscription sur le site internet www.electeur-nc.fr. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou que vous êtes nouveau résident de la commune, faites les démarches d'inscription auprès du service des élections à l'hôtel de ville. Pour rappel, les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Si vous avez changé de quartier au sein de la commune, signalez ce changement au service des élections à l'hôtel de ville de Nouméa. Votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15. Ces démarches sont nécessaires pour participer aux scrutins organisés en 2026. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025, mais n'attendez pas le dernier moment. Ceci est un message de la ville de Nouméa.
Nikon, ce sont des optiques d'une incroyable précision. Une résolution d'image haute définition. Une remarquable restitution de la lumière. Une qualité optique exceptionnelle qui existe aussi pour vos verres de lunettes. Toute l'expertise Nikon au service de votre vue et même pour vos verres solaires. Verre optique Nikon, une vision d'exception.
Avec l'opticien du Dumbé à Maule, découvrez les verres optiques Nikon ainsi qu'un large choix de montures. Célébrez Noël avec nous et nos nouvelles collections.
Ces produits sont des dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien.
Besoin d'une carte de paiement tout de suite? Avec la carte flash de Bibunk, vous repartez instantanément avec. Et le Bibunk Car arrive en tournée dans toute la Calédonie. Contactez le 30 55 10 et le 71 40 23 pour connaître les dates au plus près de chez vous. Bibunk, on fonce avec vous.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Plus de 7000 agriculteurs, dont 4000 Français réunis aujourd'hui à Bruxelles, c'est le décompte de la police belge. Un cortège avec un millier de tracteurs stationnés près du Parlement européen pour dire non au projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Les manifestants étaient déterminés à faire plier la Commission à deux jours d'une potentielle ratification du traité. Un rassemblement a d'ailleurs tendu, le reportage de Maximilien Carlier pour Europe 1.
Un épais nuage de fumée noire devant le Parlement européen. Pneus et palettes en feu, jets de pommes de terre et canons à eau, policiers et quelques agriculteurs belges face à face. Mais dès l'arrivée du cortège européen composé de membres de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, tirs de gaz lacrymogène, Pierre a les yeux rougis.
On vient de se faire gazer gratuit, hein, on l'a pas vu arriver. On a vu les bonbons rouler à nos pieds, on fait bon bah c'est bien, on s'en va. C'est pas très agréable. On a un sentiment d'inachevé, on fait de la route, on vient pour essayer de se faire entendre.
Et au final, on est considéré comme du bétail, ajoute-t-il. Tout au long de la journée, un hélicoptère a survolé le Parlement européen. Des exploitants agricoles repartent déçus, bien que le chef de l'État a réaffirmé que la France n'était pas prête à signer l'accord UE-Mercosur.
Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce que M. Macron nous dit? Pour moi, c'est un non-événement, là. C'est une évidence qu'il ne peut pas être signé, le traité.
En tant qu'agriculteur, on n'est pas des délinquants, hein. On est peut-être les derniers honnêtes gens. Puis on est assaillis de toutes parts, des taxes, des charges, des lois, des normes. Il y en a ras-le-bol.
Des tracteurs qui actuellement dans la capitale belge, toute sirène hurlante, laissant derrière eux des monticules de pommes de terre en signe de protestation. À Bruxelles, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et signalons que le Brésil va proposer un report de la ratification de ce traité UE-Mercosur. Il faut dire que la présidente de la Commission européenne doit obtenir le feu vert d'une majorité qualifiée de pays membres. Le vote doit avoir lieu normalement d'ici demain, mais les choses se compliquent puisque depuis quelques heures, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche et l'Italie rejoignent le camp de la France, c'est-à-dire celui des opposants au texte en l'état. Autre dossier majeur évoqué lors de ce sommet européen à Bruxelles, l'utilisation des avoirs russes gelés sur le vieux continent pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Sans cette mesure, il y aura de gros problèmes, prévient le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui participe aux réunions. Kiev pourrait en effet se retrouver à court terme à court de financement dès le premier trimestre de l'année prochaine. Et puis dans le même temps, les pourparlers pour mettre fin à cette guerre se poursuivent. Volodymyr Zelensky annonce de nouvelles discussions entre les délégations ukrainiennes et américaines aujourd'hui et demain aux États-Unis. L'actualité en métropole, actualité judiciaire et une Algérienne visée par une obligation de quitter le territoire français qui a été reconnue coupable d'avoir intoxiqué une famille juive qui l'employait comme nourrice dans les Hauts-de-Seine. Elle avait versé des produits ménagers dans des boissons et des cosmétiques. Cette femme est condamnée à 2 ans et demi de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nanterre, mais le caractère antisémite des faits n'est pas retenu, alors que la mise en cause avait déclaré au cours de sa garde à vue qu'elle n'aurait pas dû travailler pour des juifs qui détiennent le pouvoir. Une décision incompréhensible pour les parents de la famille intoxiquée. Écoutez Maître Sacha Gozlan, il est l'avocat des parents.
La famille, elle est stupéfaite de cette décision. Elle ne comprend pas les motivations du tribunal. On se retrouve avec une décision qui, sur la peine, est extrêmement lourde, mais qui, sur le contenu, sur la valeur, sur le sens qu'elle a, sur sa portée, est parfaitement vidée de sa substance.
Le tribunal a considéré que les propos antisémites tenus en garde à vue n'ont pas de lien direct avec les faits d'intoxication. Il est 6h59, vous écoutez Radio Rythme Bleu, une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Envie de voyager pour profiter de vacances bien méritées ? Du 8 au 31 décembre 2025, tentez de gagner 2 billets d'avion aller-retour pour Paris ou l'un des 10 lots de 50 000 points Air Calin mis en jeu. Chaque achat de 50 000 francs minimum réalisé avec votre carte Air Calin Amex à l'agence Air Calin ou sur www.aircalin.nc représente une chance de gagner.
Concrétisez vite votre envie de voyage et laissez la chance embarquer avec vous.
Je soumis à condition. Plus d'informations sur www.ofina.nc.
La clinique vétérinaire de l'Hippocampe renaît après l'incendie. Retrouvez-nous au 4e kilomètre, 6 rue Chalier, avec du matériel de pointe dernière génération et une équipe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos compagnons à quatre pattes. Plus d'infos sur Facebook, clinique vétérinaire de l'Hippocampe.
Pour les fêtes, offrez-vous ou offrez-leur quelques instants de bonheur avec Passion Macarons. Des macarons salés, chèvre, saumon et foie gras pour une entrée gourmande. Pour terminer, laissez-vous tenter par des macarons sucrés, du nougat ou des pâtisseries artisanales. Passion Macarons, c'est deux boutiques à Lanzvata et Magenta Plage.
Dès maintenant avec Google Pay, le paiement mobile débarque à la BNC. Enregistrez votre carte sur votre smartphone Android et payez avec votre mobile partout où vous allez. C'est simple, rapide et sécurisé. Vous allez adorer être client à la BNC. Plus d'infos sur bnc.nc. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social 10 avenue du Maréchal Foch, 98849, Nouméa CEDEX, RCS Nouméa 74B047688, plus coût de connexion selon votre opérateur.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Du football et la sixième journée de la phase de poule de la Ligue Conférence. Un club français sur les pelouses européennes ce matin, Lionel Sabot.
Oui, effectivement, il s'agit du Racing Club de Strasbourg qui reçoit au stade de la Méno les Islandais de Breiðablik. Les Strasbourgeois sont invaincus dans la compétition depuis le début de la saison. Ils devraient pouvoir se qualifier aisément pour les huitièmes de finale de cette Ligue Conférence. Le coup d'envoi vient d'être donné à la Méno. Les deux équipes sont égalité 0-0.
Un mot de sport d'hiver également avec la suite de la Coupe du Monde de biathlon.
Oui, et l'épreuve féminine de sprint sur 7 km 500 qui s'est courue au Grand Bornand. C'est la Suédoise Anna Hoeberg qui s'est imposée. Elle a devancé la Française Lou Jean Monod et l'Italienne Dorothea Wührer. Au classement général de la Coupe du Monde, c'est la Suédoise Magnusson qui est en tête avec un petit point d'avance sur Lou Jean Monod.
Merci Lionel Sabot. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et il fait beau aujourd'hui, Thierry.
Oui, il s'impose le soleil pour ce matin. Il sera néanmoins contrarié sur le nord-est avec des nuages qui resteront accrochés au relief en donnant quelques ondées. Des nuages présents sur l'île des Pins remonteront sur la pointe sud pour ce matin et quelques gouttes seront possibles. Alizé, lui, orienté sud-est en général, 15 voire 20 nœuds au maximum pour ce matin. Le temps pour cet après-midi, il restera majoritairement ensoleillé. Toutefois, quelques averses se développeront sur le relief et se décaleront sur la pointe nord. D'autres circuleront en loyauté. L'Alizé pour cet après-midi, toujours au sud-est, entre 15 et 20 nœuds et cette fois 20 nœuds avec des rafales prévues jusqu'à 30 sur toute la façade ouest. Les températures, elles comprises entre 28 et 30 degrés et voire jusqu'à 31, voire 32 degrés sur la côte ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur sera signé Elisabeth Noir. Et vous avez un avis, eh bien vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.